France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei, Anouk Millot et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. C'est le deuxième volet de notre série sur les audiovisuels publics, sur la sellette, que ce soit au sujet de leur financement ou de leur impartialité. À l'heure où Radio France et France Télévisions sont actuellement passés au crible par une commission parlementaire, nous parlions hier de la crise de confiance à la BBC. Aujourd'hui en Allemagne, télé et radio publique sommaient de réduire la voilure.
L'objectif principal est de préparer l'avenir de la radiodiffusion publique. En effet, celle-ci est un pilier central non seulement de notre ordre d'après-guerre, mais aussi de notre ordre médiatique. Et elle constitue, à côté des chaînes privées, un pilier du droit public. L'audiovisuel public joue un rôle très important dans notre système démocratique. Cela ne fait aucun doute.
Les médias ne font plus leur travail. Ils devraient rendre compte des événements de manière neutre. Nous en avons ras-le-bol de la propagande idéologique de l'État. Nous en avons ras-le-bol de l'idéologie du genre. Nous en avons ras-le-bol du paternalisme et d'être infantilisés. Nous sommes capables de penser par nous-mêmes.
Les chaînes doivent se réformer. Elles doivent être acceptées par la société. Et pour cela, il faut non seulement représenter la gauche politique, mais aussi la bourgeoisie du centre. Et je ne parlerai même pas de la droite, car elle se détourne en grande partie du service public. Et c'est difficile.
En 2022, une femme originaire de Bavière pousse la porte d'un tribunal pour faire part de son grief et déposer une plainte. Cela fait longtemps qu'elle regarde les chaînes de télévision publique ou écoute la radio publique, mais elle ne se retrouve plus dans ce qui est dit sur les antennes. Par conséquent, elle refuse de payer la redevance, pourtant obligatoire. Le 15 octobre dernier, la Cour administrative fédérale a jugé sa plainte recevable et ce qui semblait impensable en Allemagne est désormais envisagé, la dispense de payer la redevance si l'offre globale de programmes de l'audiovisuel public a, sur une période prolongée, je cite, « gravement manqué aux exigences de diversité thématique et d'opinion ». L'affaire n'a pas encore été jugée sur le fond, mais supprimer l'obligation de redevance porterait un coup fatal à l'audiovisuel public qui, dans son ampleur et ses moyens, n'a rien à voir avec ce que nous connaissons en France. 70 chaînes de radio, 20 de télévision, 23 000 employés et un budget de 10 milliards d'euros contre 4 pour tous les groupes de l'audiovisuel public français confondus, pas seulement France Télévisions et Radio France, j'en profite pour le dire, il y a aussi France Média Monde, l'INA, Arte France et les chaînes parlementaires. L'audiovisuel public allemand n'échappe pas lui non plus aux coupes budgétaires et une réforme portée par les ministres présidents des 16 Länder allemands est entrée en vigueur ce 1er décembre. Modernisation et rationalisation, ce sont les maîtres mots. Une réforme qui va considérablement réduire l'offre, même si elle n'est pas aussi radical que le souhaitent les détracteurs de l'audiovisuel public. Bonjour Valérie Robert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en études germaniques à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias en Allemagne. Et vous êtes ici dans ce studio avec Nicolas Hubé. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine. Vous êtes directeur du CIERA, qui est le centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne et auteur aux éditions du Croquant de la politique des chemins courts, un siècle de relations entre journalistes et communicants gouvernementaux en Allemagne entre 1918 et 2018. Alors l'audiovisuel public allemand dont on parle ce matin est l'objet en ce moment d'une vaste réforme et parmi les mesures les plus spectaculaires, il y a celle de la suppression de 17 stations de radio. Alors le texte de réforme n'a pas indiqué lesquelles seront supprimées. Est-ce que c'est à la direction de l'audiovisuel public d'en décider en concertation avec des organisations syndicales? Comment ça se fait maintenant que c'est acté, Valérie? Thierry Robert.
Alors déjà, il faut savoir que ces chaînes de stations de radio sont des stations régionales, donc que tout le monde n'écoute pas en Allemagne, évidemment. Oui, effectivement, le traité interétatique fixe un nombre, mais ne fixe pas quelles sont les stations concernées. C'est ensuite donc à l'ARD, donc cette grande association qui chapeaute une partie de l'audiovisuel public en Allemagne, de décider lesquelles. De fait, un certain nombre vont continuer quand même à exister en ligne, donc c'est pas une suppression nette.
Comme à Radio France Move, par exemple.
Oui,
exactement. Dont l'antenne a été supprimée, mais qui continue sur le web.
Tout à fait. Et par ailleurs, si les ministres présidents avaient dit exactement quelle station devait être supprimée, on aurait pu considérer ça comme une interférence dans les programmes, ce que la politique n'a pas le droit de faire en Allemagne. Il y a le concept qui a été développé par la Cour constitutionnelle de distance par rapport à l'État. Et donc l'État ne doit pas avoir d'influence dominante sur les programmes.
Donc pour l'instant, on ne sait pas, ce sont vraiment les responsables. Il va y avoir de grandes concertations aussi avec les ministres présidents des Länder, quand même s'ils n'ont pas,
je
ne sont pas qui décident, mais est-ce qu'il y a une concertation?
Non, je ne pense pas. À ce stade, c'est vraiment au sein de l'ARD que ça va se décider.
Donc la réforme consiste en la suppression de 17 stations de radio. Il y a aussi des coupes prévues dans les chaînes de télévision thématiques, par exemple 4 chaînes de l'ARD qui vont être fusionnées pour les réduire à 2 chaînes d'information et documentaire, une fusion des programmes jeunesse également. Quelle part d'économie repose sur le fonctionnement, sur l'organisation de l'audiovisuel public, que ce soit la comptabilité, enfin tous les services qui gravitent autour de ces stations, et quelle part sur la production, donc sur les programmes, sur l'éditorial, Valérie Robert?
Alors au départ, effectivement, il était question de réduire les coûts de fonctionnement, puisque il y a quand même donc dans un certain nombre de Länder ces instituts régionaux qui ont chacun toutes leurs structures d'administration, de comptabilité, etc. Et il avait été question de regrouper ces services de manière à faire des économies effectivement de fonctionnement en touchant le moins possible au programme. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les ministres présidents ont chacun défendu leur bout de gras, si je peux dire, c'est-à-dire les emplois locaux. Et par conséquent, c'est quand on finalement freiné sur ces regroupements de fonctions support, ce qui fait que finalement l'effort d'économie s'est davantage reporté sur les programmes que ce qui avait été prévu au départ.
Alors qu'en général, quand on pense fusion, on pense aussi fusion de ces services, et s'il y a des économies à faire, elles sont générales. Donc des suppressions et des économies qui concernent surtout les programmes aujourd'hui, puisqu'aucun ministre président de Land n'a voulu toucher aux emplois dans sa région, dites-vous. Ces ministres présidents qui n'ont pas voulu non plus que soit augmentée la redevance, car pour l'instant, elle est obligatoire. Nicolas Hubé, de quelle ampleur était l'augmentation proposée? C'était, je crois, le 1er janvier dernier, par la commission chargée de déterminer les besoins financiers des organismes de radiodiffusion qui s'appelle la CEF, et qui régulièrement fait des propositions en matière de coût de la redevance ou de prix de la redevance.
La proposition était de l'ordre de 30 ou 50 centimes par mois, mais il faut savoir que on a une des redevances les plus chères en Europe. Actuellement, elle est de 18,36 euros, soyons précis, par mois, ce qui représente 220 euros par an. Alors, pour les auditeurs français, avant la suppression de la redevance télé en France, on payait 138 euros, donc on voit un écart de 100 euros par an. Et il faut rajouter à cela qu'elle est obligatoire, puisque tout foyer équipé d'une connexion Internet, donc qui pourrait potentiellement avoir accès à ces programmes, doit payer cette redevance. Ce qui fait que effectivement, elle coûte relativement cher. Et ça, c'est là où ça s'inscrit dans ce débat en Allemagne également sur les dépenses publiques, les économie qu'on doit faire à peu près partout, et une politisation de ces dépenses. On a actuellement un ministre de la Culture, Wolfram Weimer, qui a parlé d'une redevance obligatoire, une Zwangsbeitrag, ce qui est comme un terme assez fort qu'il reprend à la droite, et à la droite relativement dure. En gros, c'est un impôt forcé.
Oui, contribution forcée, c'est ce que dit aussi l'AFD, Alternative für Deutschland.
Exactement.
On va parler d'ailleurs d'ailleurs de cette politisation du sujet. En Allemagne, c'est assez récent et c'est peut-être un petit peu différent de ce qui se passe en France. En tout cas, cette redevance depuis 2013, depuis une réforme de 2013, elle est donc imposée à tous, détenteurs de postes de télévision ou pas. Est-ce que ça a généré de grandes recettes supplémentaires, Valérie Robert? Parce que j'ai appris à cette occasion que même les entreprises, les hôtels, enfin tout se calcule pour les hôtels, tant de chambres, c'est tant de parts de redevance pour une entreprise en fonction du nombre de véhicules dont vous disposez, etc. Est-ce que ça a vraiment apporté beaucoup d'argent dans le service public de l'audiovisuel, cette réforme qui date maintenant d'il y a 12 ans?
Ah oui, absolument. Oui, ça a très nettement augmenté les recettes. Et en même temps, ça a, pour moi, c'est vraiment le début de la vague de contestation de l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une cristallisation là-dessus. Alors que certes, bon, en fait, disons des entreprises par exemple doivent payer, mais la plupart des gens avaient déjà un poste de télé et payaient déjà une redevance. Donc en fait, pour eux, ça changeait pas grand-chose finalement. Mais il y a eu vraiment un changement symbolique avec cette idée effectivement de quelque chose d'obligatoire. Mmh.
Et donc cette fois, les ministres présidents des Länder n'ont pas voulu donc que soit augmentée la redevance, et face à ce blocage des chaînes publiques, que ce soit l'ARD ou CDF, ont eux aussi saisi la Cour constitutionnelle. Enfin, ce sont les groupes de chaînes, Cour constitutionnelle fédérale, il y a un peu plus d'un an, en novembre 2024. Quel principe constitutionnel est, selon ces groupes, ARD et CDF, bafoué par ce refus des ministres présidents des Länder d'augmenter la redevance? Et surtout, où en est cette histoire-là, si la Cour a été saisie, est-ce qu'elle a déjà rendu sa décision?
C'est la question de la liberté par rapport à l'État, très clairement. Alors la Cour ne rendra sa décision probablement qu'en 2027, parce qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire en ce moment, ce qui veut dire qu'il n'y aura probablement pas d'augmentation. Après, la dernière fois qu'il n'y a pas eu d'augmentation, parce qu'un Land n'a pas voté, n'a pas entériné une augmentation, la Cour constitutionnelle a produit un arrêt en faveur de l'audiovisuel public. Donc ça serait probablement la même chose cette fois-ci.
Est-ce que certains Länder étaient prêts à payer le prix, soit pour la beauté du geste et du service public, soit aussi par intérêt parce qu'ils savent que leurs administrés sont particulièrement attachés à leur chaîne publique de radio ou télévision? Est-ce que ça a généré des débats entre présidents, ministres-présidents des Länder, à votre connaissance, Nicolas Hubé?
Pas à ma connaissance, mais vu la politisation du sujet, tout le monde est un peu frileux à vraiment aller dans le sens d'une augmentation des contributions, puisque ce serait encore alimenter cette idée qui est des médias publics qui renforceraient des idées de gauche, etc., etc. Donc tous les ministres présidents sont relativement prudents, et je crois qu'il est aussi important de rappeler que c'est vraiment l'audiovisuel public n'est pas aux mains du gouvernement fédéral. Et donc, on a toujours un jeu entre les 16 Länder. Donc, la réforme dont on parlait tout à l'heure, qui a été adoptée au point de vue fédéral l'an passé, il a fallu attendre la ratification par chacun des 16 Länder. Donc, au 1er décembre, le dernier Land l'a validé. Maintenant, la réforme est un peu floue, puisqu'elle donne jusqu'à 2027 pour rentrer en application, finalement, à peu près au même moment que ce qui est attendu de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe.
Cette Cour qui est, comme vous le disiez, occupée sur beaucoup d'autres sujets, et notamment cette plainte d'une Allemande de Bavière qui a demandé à être dispensée de redevance. C'est vrai que ce débat autour de la redevance a pris une autre dimension quand, en octobre dernier, la Cour administrative fédérale a jugé recevable cette plainte. Est-ce que sa décision est motivée? Est-ce que vous l'avez lu d'ailleurs, Nicolas Hubé, très récemment. Qu'est-ce que vous en avez ressenti, appris de la façon dont la Cour administrative fédérale aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs la Cour constitutionnelle, dit constate suite à cette plainte et le fait qu'elle ouvre une forme de brèche quand même?
Oui, elle ouvre une brèche. Alors effectivement, ce sont deux cours distincts. La Cour administrative de Leipzig, c'est l'équivalent de notre Conseil d'État.
Oui, oui.
Et c'est là le point de vue d'un administré qui paierait un impôt, ici la redevance, même si c'est une taxe, c'est pas un impôt, mais peu importe, et qui, au nom de son droit à la critique de l'administration, ça c'est la première motivation qu'a mis en avant la plaignante, et qui a finalement été recevable par la Cour. Effectivement, on peut critiquer son administration, on peut de ce fait également ne pas avoir à payer un service qui n'est pas rendu, qui serait un service public. Donc pourquoi payer quelque chose dont le service ne serait pas rendu, si je résume rapidement. Mais donc c'est une vraie brèche par rapport à la sacro-sainte redevance. En revanche, la Cour est beaucoup plus prudente sur le contenu, puisque elle dit qu'il faudrait réussir à prouver qu'il y a un manque de respect, d'équité, des temps de parole, d'égalité, de représentation des différentes opinions sur un temps suffisamment long. Qu'est-ce à dire un temps suffisamment long ? On ne le sait pas. D'autant plus que nous n'avons pas de système de comptage de type Arcom en Allemagne.
Donc, il n'y a pas de contrôle du pluralisme.
Là, pour l'instant, le contrôle, il ne dit rien. Et on attend peut-être le jugement sur le fond de cette capacité à mesurer ce déséquilibre.
Et d'ailleurs, la Cour administrative de Munich et le Tribunal administratif supérieur de Bavière avaient dans un premier temps, enfin même dans deux temps différents, rejeté la plainte en estimant que le droit à payer la redevance ne dépend pas de l'évaluation subjective de la qualité, car qui va éplucher et écouter ou regarder des mois de programme pour évaluer si l'audiovisuel public a, je cite, sur une période prolongée, gravement manqué aux exigences de diversité thématique et d'opinion. C'est une question qui reste entière aujourd'hui. Nicolas Hubé, est-ce que les arguments ou la décision du tribunal, les motivations rendues publiques par le tribunal sont un peu les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'impôt du culte, l'impôt cultuel qui est aussi une spécificité allemande, c'est-à-dire tout le monde paye l'impôt culturel alors que tout le monde ne croit pas.
Ouais. Là, on aurait pu s'attendre, alors peut-être que le jugement sur le fond va revenir là-dessus, mais la Cour, à mon sens, a été beaucoup plus prudente, justement en insistant en effet sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un jugement subjectif. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les présentateurs de France Culture, par exemple, que je ne
Comment
veux pas payer ma redevance. Il faudrait prouver objectivement. Donc l'arrêt est un arrêt théorique, presque un arrêt théologique. C'est dans l'esprit, c'est possible. Reste à savoir comment on va l'opérationnaliser. Alors peut-être ça va déboucher sur un instrument de mesure objectif, mais on voit bien également en France combien c'est délicat de mesurer et les batailles aujourd'hui entre l'ARCOM et le groupe Bolloré pour savoir qui de l'un ou de l'autre est le plus respectueux du pluralisme ouvre encore beaucoup de brèches. Donc c'est un arrêt très théorique, mais qui ouvre quand même une brèche dans le débat public.
Et qui crée un précédent. D'autres plaintes pourraient être déposées, d'autres personnes qui ne se sentent pas représentées quand il ou elle regarde ou écoute l'audiovisuel public. Clairement d'ailleurs, quand cette dame de Bavière dit qu'elle ne se sent pas représentée, est-ce qu'elle précise si elle est elle-même de droite ou de gauche, Valérie Robert ?
Pas à ma connaissance, non.
Donc elle n'en dit pas plus, parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas envisager qu'elle pense les médias publics trop berlinois, comme on dirait en France, trop parisiens, puisque tout est décentralisé, donc ça se situe plutôt au niveau vraiment politique.
Oui, tout à fait. Mais il y a de toute façon en Allemagne, en ce moment, il y a une grande tendance au bashing de l'audiovisuel public, et en particulier à l'idée de dire que l'audiovisuel public serait trop de gauche. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, que le ministre de la Culture fédérale, par exemple, a dit récemment. Ce qui, à mon avis, là, il n'est pas loin d'outrepasser ses fonctions et de se rendre, en fait, coupable d'intervention dans les programmes audiovisuels publics. Il y a eu quelques études sur cette question-là. D'une manière générale, effectivement, on considère que l'audiovisuel public tend, effectivement, plus vers un modèle, par exemple, d'État social qu'un modèle libéral. Ça, c'est clair. Et que peut-être les voix conservatrices seraient moins représentées que les autres. C'est toujours à prendre avec des pincettes, ça, parce que ça aussi, c'est une impression subjective. Des collègues de Mayence ont fait une étude là-dessus l'année dernière. Ils ont étudié 9 émissions de l'audiovisuel public pendant 2 mois. Bon, voilà, 2 mois. C'est pas forcément suffisant non plus, et ils le disent d'ailleurs. Et ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont trouvé que l'audiovisuel public était... un peu plus à gauche qu'à droite, ou un peu plus, disons, progressiste que conservateur, c'est plutôt les termes qu'on emploie en Allemagne, mais en ajoutant, et c'est ce que la plupart des médias, quand ils reprennent cette étude, ne disent pas, c'est qu'ils étaient autant à gauche que la plupart des grands médias.
Donc pas, par exemple, quand le Spiegel fait sa une, Sind die Nord zu retten, est-ce qu'on peut encore les sauver sous titre cher, lent, moralisateur en parlant de l'audiovisuel public? Quand vous avez lu ce dossier du Spiegel, eux disent plutôt que l'audiovisuel public penche à gauche en citant en fait assez mal cette étude.
Absolument, ils ont tronqué l'étude en fait. Ouais. Donc ils ont tronqué l'étude qui les concerne aussi. Mais bon, ce qu'on a là derrière, c'est évidemment aussi une concurrence économique entre les médias privés et les médias publics. Donc toute information sur les médias publics par les médias privés est logiquement un petit peu orientée.
Alors quand les détracteurs de l'audiovisuel public citent parmi les exemples, parmi certains exemples, pour dire que les chaînes sont trop à gauche, qu'on n'y défend pas le pluralisme, qu'on n'entend pas assez la droite, la CDU, CSU notamment, ou leurs électeurs qui est arrivé en tête. D'ailleurs, cette droite-là des élections fédérales l'année dernière avec près de 29% des voix. Il y a cette polémique, par exemple, autour d'une présentatrice de l'émission Klar de la radiodiffusion nord-allemande de la NDR. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet exemple-là est mis en avant?
Alors, il s'est passé que c'était en fait une collaboration entre le NDR et la radiodiffusion de Bavière. Ils ont trouvé cette jeune journaliste qui présentait bien d'un point de vue conservateur, puisqu'elle refusait par exemple d'utiliser
Langage inclusif.
Ah, voilà. Ça existe aussi en Allemagne, le langage inclusif.
Tout à fait. Absolument.
Parce que c'est pour savoir, essayer de me représenter ce que ça peut donner en allemand, mais on en parle.
Ça marche très très bien en allemand. D'accord. C'est très facile, justement.
D'accord.
Et donc, ils ont fait présenter une émission qui était une émission régionale, donc rien de gigantesque. Et finalement, ça a fait quand même un scandale à l'intérieur de l'Institut du Nord de l'Allemagne, en considérant qu'on tendait plutôt vers l'extrême droite. Bon, voilà, grosse discussion, petite polémique interne. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que elle va continuer à présenter la moitié des émissions et pas les émissions en entier. Et sur l'autre moitié, elle va être remplacée par l'ancienne rédactrice en chef de Bild, qui est pas franchement une gauchiste non plus. Donc, autrement dit, on n'a pas du tout comme quoi ça a été présenté comme un cancelling politique épouvantable. Non, c'est juste qu'elle aura la moitié des émissions par rapport à ce qu'elle faisait auparavant.
Mais on a fait une forte polémique. Ça a effectivement été monté en mayonnaise. Alors, d'une part, du fait des rivalités entre chaînes, donc là il y a des batailles internes et au sein de la rédaction, et puis un appui politique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que précisément vous parliez tout à l'heure des chaînes berlinoises, c'est qu'elles se positionnaient sur un marché, on va dire périurbain, de petites villes, conservateurs, et avec des propos qui étaient effectivement dans la frange la plus à droite de l'espace médiatique, et elle a eu une forme de soutien de la part du public. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tous les ingrédients étaient réunis pour parler d'une cancel culture à l'allemande.
Et le débat est remonté jusqu'au niveau fédéral. Le ministre de la Culture, Wolfram Weimer, a été interrogé à ce sujet par Welt TV.
Une grande partie de la population a l'impression que les chaînes publiques ont une couverture médiatique politiquement biaisée. Cette impression s'est particulièrement renforcée ces dernières années et ces derniers mois parmi les Allemands de l'Est. Et c'est un problème, car les chaînes publiques dépendent largement de leur acceptation par le public. Chaque famille allemande doit payer une redevance audiovisuelle, ce qui représente au total 8,7 milliards d'euros. Les chaînes sont donc naturellement tenues de refléter la diversité des opinions et d'offrir un spectre aussi large que possible. Si ce n'est pas le cas, ou si de nombreuses personnes ont l'impression que ce n'est pas le cas, cela nuit à l'intégrité des chaînes.
Alors, comment les dirigeants de ce consortium de radiodiffuseurs régionaux télé et radio, l'ARD, se défendent de ces attaques, Valérie Robert? Est-ce qu'ils argumentent? Est-ce qu'ils essayent d'expliquer leur position? Est-ce que ça génère un vrai débat?
Non, ils se défendent très mal. Et là, je crois que c'est dû au nombre de strates et de couches à l'intérieur de toutes ces institutions. Il y a des séries de communiqués de presse qui sortent, qui se contredisent les uns les autres. Enfin voilà, tout ça est très maladroit. Et ça rajoute encore justement de la polémique, là où en fait il suffirait d'être relativement clair en disant les choses très simplement.
Mais alors, si vous nous disiez tout à l'heure, Nicolas Hubé, qu'il n'y a pas en Allemagne d'équivalent de notre ARCOM en France, alors qui garantit le pluralisme aujourd'hui sur les chaînes du service public? Qui le garantit et le contrôle? Qu'est-ce que cette Bundeskulturkonferenz, par exemple, qui est censée être quand même une forme de garant de ce qui se passe sur les antennes?
Alors, c'est un système qui, d'abord, est géré de manière corporatiste aussi par la profession elle-même. C'est-à-dire qu'on a à la fois, au niveau des lenders, des équivalents, mais qui n'ont pas du tout les mêmes tâches et les mêmes obligations légales de contrôle que ce que fait l'ARCOM. Donc, on a un contrôle au niveau régional du fait de la structure des lenders. Et puis, ensuite, c'est justement suite à la tentative de contrôle par Adenauer en 61 qui voulait faire de l'audiovisuel public un audiovisuel du gouvernement. En réaction à tout cela, la profession a organisé un presserat, donc un conseil de la presse qui est là pour donner aussi des bons et des mauvais points à celui qui ne respecterait pas ou peu ce pluralisme.
Une sorte de cours de déontologie.
Exactement, qui en France n'a été que créé en 2018, donc on voit des différences. J'aimerais juste revenir aussi sur un élément du son qu'on vient d'entendre, où le ministre de la Culture parle de la confiance que devrait avoir le public. Certes, l'audiovisuel public est une ambulance sur laquelle tout le monde tire, mais a des taux de confiance auprès de la population qui restent encore extrêmement élevés et qui feraient pâlir les médias français. Pour vous donner un chiffre, en 2025, 67% des Allemands considèrent que l'audiovisuel public est irremplaçable.
Et les audiences, alors, parce qu'au-delà des sondages, c'est vrai qu'on ne cite pas souvent les sondages dans Culture Monde et on n'a pas plus de raison de les relayer quand ils vont dans le sens de ce qui nous fait plaisir. En l'occurrence, c'est plus de 60% de réponses positives, alors qu'on ne le fait pas en général. Mais sur les audiences, elles sont suivies, ces chaînes, elles sont écoutées, elles sont regardées massivement.
Oui, tout à fait. Mais si je me permettais de revenir sur ces sondages, alors
je fais de
même que j'ai publié des choses sur la critique des sondages, c'est que on a ici des enquêtes régulières auprès relativement sérieuses sur longitudinales sur le rapport du public à ces chaînes. Et certes, on a une chute de cette confiance, mais on est quand même très largement au-dessus de ce qu'on a en France avec l'enquête du Monde, La Croix, pardon, qui est la référence qu'on a régulièrement dans l'espace public français.
Et que l'on salue d'ailleurs nos confrères de La Croix qui font ces enquêtes-là. 40% de part d'audience pour le journal télévisé public, je crois, Valérie Robert, qu'il n'y a pas vraiment de concurrent privé. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce que
Oui, je voulais ajouter quelque chose sur le pluralisme. En fait, en Allemagne, le garant du pluralisme est à l'intérieur des instituts de l'audiovisuel. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça a été construit. Ils sont gouvernés de l'intérieur et pas par la politique de l'extérieur, par des conseils qui comprennent des représentants de la société civile. Et c'est eux qui sont censés représenter justement la diversité de la société civile et garantir le pluralisme à l'intérieur. Et qui examinent les programmes et qu'on peut saisir. Bon, après, il est vrai qu'ils répondent à peu près jamais quand on les saisit sur quelque chose, mais ils sont là.
Bon, c'est déjà ça. Il se trouve qu'en Allemagne, il y a quand même une pratique qui n'existe pas du tout en France. C'était une pratique formelle qui consistait à nommer un directeur de rédaction proche d'un parti majoritaire et son adjoint proche de l'opposition. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça concerne l'audiovisuel public? Parce que on se dit que bon, ça peut poser plein de questions, cette pratique-là ou cette habitude. Néanmoins, ça devrait prémunir contre les attaques en non-pluralisme.
Oui, tout à fait. Après, ça, ce sont des pratiques qui sont officieuses. C'est écrit nulle part. Mais effectivement, c'est quelque chose qui existe. Il y a, en fait, comme le disait Nicolas Hubé tout à l'heure, je veux dire, Adenauer trouvait déjà que l'audiovisuel public, c'était une bande de gauchistes qu'il fallait mettre au pas. Donc, bon, c'est pas totalement nouveau.
Alors, l'AFD, pour en venir à l'extrême droite, et les débats qui ont très longtemps agité les rédactions sur quelle place faire à l'extrême droite, est-ce qu'il faut inviter des représentants de l'extrême droite, qui est une question qui a de moins en moins de sens quand l'extrême droite représente ce qu'elle représente, notamment au Parlement en Allemagne, 20%, je crois, aux dernières élections fédérales pour l'AFD, Alternative für Deutschland. Sauf que l'Office fédéral de protection de la Constitution en Allemagne a encore classé cette année l'AFD comme un mouvement d'extrême droite avéré, dont le discours est incompatible avec l'ordre démocratique. Il y a cette institution très importante en Allemagne qui arbitre sur ces différents partis et qui tente une forme de contrôle. Est-ce que pour autant, il est interdit de l'inviter? Est-ce que les rédactions s'interdisent de... Non, on les entend tout le temps, les représentants de l'AFD, Nicolas Hubé,
oui,
sur les chaînes.
Disons que l'AFD, c'est un peu interview avec un vampire. Depuis que l'AFD était arrivée dans l'espace politique, c'est-à-dire il y a 10 ans, 15 ans, les médias ne savaient pas trop quoi faire de ce parti d'extrême droite. Au départ, c'était plutôt un parti d'élite. C'est toujours une grande partie des cadres sont des personnes assez mondaines. Certaines étaient déshabituées des plateaux télé lorsqu'ils étaient eux-mêmes élus CDU ou libéraux. Donc ils ont continué à les inviter. Mais avec ces scores, on s'est posé la question, faut-il vraiment leur donner plus d'importance, moins d'importance, faut-il les inviter? Et l'AFD elle-même a commencé à jouer là-dessus. En fait, ils sont aujourd'hui avec l'AFD ce qu'a été la France dans les années 80 avec Jean-Marie Le Pen. Faut-il lui donner cette audience? Et chaque fois que l'AFD est invitée, elle va se plaindre qu'on lui donne pas suffisamment la parole, qu'on lui coupe la parole, voire va mettre en scène ses esclandres. On se rappelle de l'élection de 2022 où la responsable du de 2021 où la responsable du parti quitte le parti lors du débat parce que elle considérait qu'on lui a posé une mauvaise question. Mais c'était quelque part une mise en scène et tout le monde s'est retrouvé un peu comme des ronds de flanc avec un tableau vide, et donc l'effet d'image était beaucoup plus important que cette question, faut-il les inviter ou pas.
Et vous vous souvenez ce que c'était cette mauvaise question, ce qu'elle considérait
c'était
comme telle?
C'était une question relativement anodine, on l'a contredit assez vite, et puis en fait, tout de suite, c'était l'argument, mais vous me coupez la parole, etc. Et je quitte, ce qu'en France, on ne fait plus, parce qu'on sait que le temps d'antenne est plus important, etc. Mais là, on a vraiment une stratégie de critique, et qui s'inscrit dans un débat sur les médias qui mentent, les Lügenpresse qu'on a très fortement thématisé à partir de 2020, notamment avec les mouvements anti-vax, anti-masques, etc.
Donc. Oui, Lügenpresse, la presse du mensonge qui vise tous les médias en général et pas les médias publics en particulier. Mais est-ce que l'AFD a l'apanage de cette expression et de cette attaque, où de plus en plus de partis politiques aujourd'hui, Valérie Robert, parlent des médias comme de la presse du mensonge?
Non, ça reste quand même quelque chose qui est limité à l'extrême droite. Mais à toute la sphère extrême droite, complotiste, etc.
Et est-ce que Alternative für Deutschland en a une d'alternative à l'audiovisuel public allemand? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel est dans le programme de l'AFD, tout ce qui concerne...
Oui, c'est le réduire au strict minimum.
Réduire l'audiovisuel public allemand au strict minimum, ou la redevance au strict minimum, ce qui revient peut-être au même
aussi,
d'ailleurs.
Oui.
Le Björn Höcke, par exemple, le président de l'AFD en Thuringe, il joue particulièrement sur la polarisation. On l'a entendu d'ailleurs au tout début de l'émission, c'est lui qui parlait de cette presse du mensonge. C'est peut-être sans doute le plus virulent aujourd'hui contre l'audiovisuel public en Allemagne. Est-ce que vous avez vu évoluer les critiques contre l'audiovisuel public, à la fois dans leur virulence, dans les mots employés? Est-ce que c'est, voilà, de quelle façon vous avez vu ces mots changer et la charge de la violence, la charge de l'attaque également changer, Nicolas Hubé?
Ce qu'on observe, c'est pas tant la critique. Alors, on a la critique d'extrême droite autour de dont on vient de parler, la Lügenpresse, qui s'est ensuite effectivement déployée sur l'audiovisuel public. Aussi, comme le rappelait Valérie Robert, par les concurrents de médias privés. Et puis, en revanche, ce qui est un peu nouveau, c'est les propos du ministre de la Culture, dont on a entendu parler tout à l'heure. C'est-à-dire que les partis de gouvernement commencent beaucoup plus fortement, ou recommencent, et c'est par vagues, à critiquer cet audiovisuel public en reprenant les arguments, quelque part, de l'extrême droite. Et puis, surtout, ce qui est un peu nouveau, c'est l'arrivée de médias d'extrême droite. Alors, en ligne, on n'a pas de groupe Bolloré. Et ça, c'est une vraie différence dans l'audiovisuel en général en Allemagne. C'est qu'on n'a pas BFM, CNews, toutes ces chaînes d'information en continu. On n'a pas un audiovisuel privé aussi fort et concurrentiel. Mais ces médias sont, par exemple, un média en ligne qui s'appelle News, qui est dirigé par par un ancien rédacteur de Bild et qui va très fortement appuyer finalement avec des propos qu'on retrouve en France du côté du groupe Bolloré.
Alors, c'est une question que je voudrais poser peut-être dans toutes les émissions de cette semaine à nos invités, c'est quelle valeur aujourd'hui défend le service public de l'audiovisuel allemand au-delà des opinions de gauche ou de droite, parce qu'il me semble quand même qu'il y a des valeurs communes à trouver et à défendre. En France, on dirait valeurs républicaines, droits de l'homme, droits internationaux. Aujourd'hui, quand l'audiovisuel public doit se défendre, même s'il le fait mal, nous disiez-vous Valérie Robert, est-ce qu'au moins il met en avant des valeurs communes qu'il s'agit de défendre aujourd'hui par le service public, dans le service public?
Oui, il y a quand même quelque chose qui est reconnu, c'est l'importance du service public à l'heure actuelle contre les fake news, contre la désinformation, pour avoir quand même une information équilibrée, et puis une information qui ne vise pas le profit, ou pas uniquement le profit en tout cas. Ça, c'est quand même quelque chose qui est mis en relief, oui.
Nicolas Hubé.
Oui, et puis un autre aspect, mais ça renvoie pratiquement au premier son que vous avez transmis sur on en a marre de ce paternalisme. C'est-à-dire que c'est un argument que l'audiovisuel public a, y compris dans son cahier des charges, celui d'un média d'éducation. Donc il faut un ton beaucoup plus apaisé. Il faut expliquer les choses. Et ça aujourd'hui, c'est à la fois la force du service public allemand et un des aspects de la critique, c'est on en a marre de nous faire les leçons, laissez-nous penser comme on veut. Donc on voit que ces arguments sont réversibles, mais j'allais dire coincés par cet argument, comme le disait Valérie Robert, l'audiovisuel se défend un peu mal.
Et c'est vrai que parfois on taxe l'audiovisuel public allemand d'être un peu vieillot, et ça fait presque, je sais pas, ça fait presque du bien comme critique, on dit si ce n'était que ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette critique-là qui est formulée, et peut-être c'est ça ce que voulait dire le Spiegel, trop lent. Bon, je sais pas exactement ce qu'il voulait dire avec cet adjectif-là. En revanche, l'idée que l'audiovisuel public doit faire des économies, elle est défendue par tous. Est-ce qu'il y a au moins certains aspects sur lesquels l'audiovisuel public fait non pas un mea culpa, mais reconnaît qu'il y a peut-être des choses à faire, quelques économies à faire. Alors pas toujours sur la production, parce que c'est quand même toujours les programmes et la qualité, les contenus qui sont visés, mais des choses peut-être plus évidentes dans un premier temps.
Là, ils ont par exemple, dans le nouveau traité, il est question aussi de limiter à 5% de l'ensemble de leurs dépenses les droits sportifs, par exemple.
Alors qu'aujourd'hui
c'est ça.
D'accord.
Donc il faut pas aller plus loin. On les baisse pas, mais on les augmente pas plus. Voilà. Mais ça, c'est aussi une critique qui vient d'audiovisuel privé, évidemment. C'est une question de concurrence économique.
Et sur les salaires, Nicolas Hubé.
Sur les salaires, ce qui a été très fortement mis en avant sont les salaires des dirigeants, qui sont effectivement des salaires entre 200 et 300 000 euros par an, voire un peu plus.
Ah oui.
Et on a dans le numéro du Spiegel dont vous parlez, dont vous parliez précédemment, on a une grille de tous les salaires des dirigeants de ces chaînes. Et donc là, effectivement, dans un contexte de récession économique en Allemagne, ça fait grincer des dents. Donc quelque part, la fusion des chaînes va ou pourrait amener à ces économies du fait des dirigeants de chaînes.
Et qu'est-ce que d'ailleurs le système de régionalisation induit comme coût supplémentaire de rediffusion, par exemple, alors là ça concerne pas les dirigeants mais ceux qui des producteurs d'émissions, quand une émission est rediffusée et d'abord diffusée une première fois sur la chaîne pour laquelle elle est fabriquée et qu'ensuite elle est rediffusée sur une autre chaîne, est-ce que ça génère des coûts supplémentaires, est-ce que tout ça est remis en débat, Valérie Robert?
J'ai pas entendu parler de ça. En revanche, ce qui est souvent critiqué, c'est l'existence par exemple de petites institutions, par exemple la SAR, qui est quand même un tout petit land, a son institut pour audiovisuel à lui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait être envisagé un jour, c'est de fusionner avec son voisin. Parce que c'est quand même toute une structure uniquement pour un tout petit territoire.
Nicolas Hubé.
Et donc, effectivement, pour poursuivre cet argument, d'avoir une chaîne en SAR, ça veut dire aussi d'avoir un dirigeant de cette chaîne avec le salaire dont on parlait, etc. Le point dont vous parliez précédemment est plutôt, cette fois-ci, un confort de travail des journalistes. journalistes et pour une fois que les personnes peuvent travailler, les journalistes peuvent travailler confortablement, c'est qu'effectivement, alors ça peut générer une forme de surcoût, mais c'est pas ce qui est vraiment thématisé. C'est que quand c'est produit au niveau d'une chaîne régionale et ensuite rediffusé, on repaye des droits d'auteur. Et puis si c'est rediffusé ensuite, par exemple à Arte, ça va être repayé une troisième fois. Là, c'est vrai que dans l'audiovisuel public allemand, alors il faudra voir dans quelle mesure ça pourrait avoir des impacts sur le fonctionnement d'Arte, puisque on demande à fusionner la chaîne culturelle Dreisat, qui est une chaîne qui réunit les chaînes publiques germanophones, avec Arte. Donc si on commence à faire des économies du côté allemand d'Arte, mécaniquement, ça supposerait de faire, puisque dans le cadre du traité, il faut un équilibre des dépenses du côté français et allemand, ça supposerait peut-être des économies du côté français d'Arte. Donc peut-être que cette réforme de l'audiovisuel public allemand pourrait avoir des conséquences sur l'audiovisuel public français via Arte.
Vous écoutez Coûter Culture Monde, troisième épisode de notre série sur les audiovisuels publics, sur la sellette. Aujourd'hui en Allemagne, et nous parlerons de la Norvège, maintes fois citée comme un exemple, mais ça n'est pas si simple que ça, tout comme en Suède où les modèles robustes a priori d'audiovisuel n'empêchent pas les controverses. Ce sera juste après Kraftwerk et Radioactivité, bien sûr. Radioactivity de Kraftwerk. Ce morceau date de 1975. Les radios et télévisions publiques allemandes sommées de réduire la voilure. C'est le deuxième épisode de notre série sur les audiovisuels publics sur la sellette. Alors, pour les services publics de la radio et de la télévision, la Norvège a parfois été citée comme un modèle avec ses programmes originaux, sa plateforme numérique qui n'a rien à envier, paraît-il, à Netflix et ses auditeurs et téléspectateurs fidèles. Mais en Norvège comme en Suède, les modèles robustes d'audiovisuels publics n'empêche pas les controverses.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Car en Suède et en Norvège aussi, les partis populistes conservateurs dénoncent des programmes politiquement biaisés, tandis qu'une partie du public s'inquiète d'une baisse de qualité. Bonjour Peter Maurer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en médias et communication à l'université de Karlstad en Suède. Vous connaissez aussi ce qui se passe en matière d'audiovisuel public en Norvège, puisque vous avez été en poste à l'université de Trondheim, et en Allemagne aussi, puisque vous êtes allemand. Voilà, alors pardon pour cette première question très générale, mais au fur et à mesure de vos affectations, est-ce que vous avez eu l'impression que tous les débats se suivent et se ressemblent, que toutes les critiques sont les mêmes formulées à l'encontre des groupes audiovisuels publics ?
Oui, alors en gros, oui, je dirais que c'est le cas. Je reconnais beaucoup des controverses, par exemple qu'on a en Allemagne aussi, un peu différent, mais aussi de la même manière en Suède, peut-être moins en Norvège, mais ça se ressemble quand même. Les problèmes ou les les controverses, les débats sont un peu pareils.
Que ce soit en Suède, des pressions pour fusionner les trois entités d'audiovisuel public, ou en Norvège, tous les débats sur la taille de NRK, donc l'audiovisuel public norvégien qui rassemble télévision, radio et numérique. Qui porte les attaques dans ces deux pays qui ont été longtemps gouvernés par les sociodémocrates? Est-ce que d'ailleurs ça, cette donne-là politique, ça change quelque chose à la fois dans la nature des attaques et leur virulence?
Oui, qui donne les attaques. Pour peut-être parler d'abord un peu de la Suède. Là, je crois, c'est le débat politique sur l'audiovisuel public est plus virulent. Et là, ça, c'est peut-être moins sur la fusion des chaînes ou de la. En Suède, il y a trois organismes. Il y a la télévision publique, la radio publique et aussi une radio d'éducation. Mais en général, on peut parler du service public. Là, c'est la polémique ou le débat, c'est plutôt sur une orientation un peu partisane ou l'impartialité mise en question par exemple la droite populiste qui fait partie du gouvernement maintenant en Suède, mais aussi même du premier ministre suédois qui s'est plaint il y a quelques semaines comment un débat entre des leaders politiques a été mené de la part des modérateurs par SVT, donc le service public suédois à la télévision. Il y a aussi des accusations d'indoctrinement politique, un peu par exemple sur le changement climatique ou même sur d'autres thèmes et matières. Donc je dirais en Suède c'est plutôt une s'il y a un débat, les débats portent sur l'orientation politique du service public.
Et avec des reproches qui rappellent ceux qu'on a évoqués hier pour la BBC ou sur tous les médias de visuel public en Europe, j'ai l'impression, à la fois sur le traitement de la guerre à Gaza, un recul de la qualité de l'information en général, beaucoup reprochent aux médias suédois ou norvégiens de suivre l'agenda de CNN. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Pourquoi est-ce qu'on reproche aux médias suédois et norvégiens d'être états-uniens dans leur traitement de l'information?
Je différencierais peut-être là un petit peu, c'est plutôt l'hostilité envers le gouvernement ou l'administration de Trump.
D'accord.
C'est ça qu'on ne reproche pas. Il n'y a pas une position unique américaine. Il y a ceux qui supportent Trump et ceux qui luttent contre la politique de Trump. Et c'est peut-être ce qu'on reproche, mais c'est pas peut-être la reproche la plus forte. Mm. C'est d'être très hostile envers Trump. Mais ça a peut-être changé aussi un tout petit peu depuis il a été relu pour la deuxième fois en Suède. Mais vous avez évoqué la guerre à Gaza ou le conflit à Gaza. Là, il y avait aussi des accusations que le service public suédois est trop partial dans ce conflit et même diffuse un peu la propagande du Hamas. Des fois, n'est pas assez critique des informations qui proviennent de Gaza, de l'intérieur de Gaza. On n'est pas assez critique envers ces informations-là et on se fait un peu l'aide des positions islamistes du Hamas.
C'est le même débat d'ailleurs qui a lieu au Royaume-Uni avec la BBC. On a pu expliquer hier bien dans le détail toutes les positions des uns et des autres et qui disait quoi à ce sujet. Il y a vraiment de grands débats, y compris au sein des rédactions et des accusations de parti pris de part et d'autre justement. Est-ce qu'en Suède, on a vu apparaître, comme au Royaume-Uni dont on parlait hier, ou comme en France, de nouveaux médias qui contribuent à accorder beaucoup plus de place à l'extrême droite, tout en reprochant aux médias publics leur supposé manque de pluralisme?
Oui, c'est... Bon, il faut quand même dire que le service public conserve une très très forte position et généralement, le service public fait beaucoup confiance, ou il rejouit de beaucoup de confiance toujours, et aussi d'une très grande grosse part de l'audience. Donc là, de ce point de vue, il n'y a pas de vrai concurrent. Mais il y a des médias alternatifs ou de droite plutôt. Par exemple, une chaîne TV qui est très active sur YouTube. Il y a plusieurs centaines de centaines de milliers d'abonnés. Ça s'appelle Rix. C'est une chaîne de droite populiste. Je ne dirais pas de l'extrême droite parce que c'est quand même le second parti de la Suède et les positions sont plutôt des positions populistes, pas nécessairement d'extrême droite, mais bon. Et voilà. Et ça, c'est devenu une alternative, un lieu où se ressemblent ceux qui sont très très agacés ou très déçus de l'agenda et aussi de la façon dont le service public, par exemple, mène les débats politiques, par exemple autour du Gaza, autour du changement climatique, autour de la production sans énergie fossile. Vous savez, la politique climatique qui est un très grand sujet en Suède, aussi en Norvège, mais surtout en Suède, où la société est quand même beaucoup plus diversifiée et aussi polarisée politiquement, il me semble.
Ce qui est toujours surprenant de savoir qu'on se polarise et on se divise sur des questions de changement climatique et de climat, mais c'est une autre histoire. Est-ce que peut-être pour conclure, Peter Maurer, est-ce que ces chaînes ont réussi non seulement à conserver leurs audiences sur le temps long, mais aussi à convaincre les jeunes de les écouter, de les regarder, à créer une forme de nouvelle génération ou prochaine génération d'auditeurs et téléspectateurs?
Oui, de toute façon, ils sont très innovateurs là-dessus. Au Norvège, le NRK, mais aussi la SVT en Suède, ils vont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok et sur Instagram et d'autres, parce qu'ils savent que les jeunes spectateurs se trouvent là. Et c'est la meilleure façon de les joindre avec leur programme et avec leur rapport. Donc oui, ça c'est un souci, mais ils sont aussi innovateurs dans le sens où ils essayent d'être présents, d'avoir ils négocient aussi avec les grandes plateformes pour y être présents et pour aussi déterminer et décider des termes sur lesquels ou dans l'encadrement de leur présence là sur ces plateformes. Et c'est ça aussi qui dans les deux pays est assez réussi. Et c'est aussi leur seule chance d'ailleurs, parce que les jeunes en Norvège comme en Suède sont très très orientés vers les plateformes comme TikTok et autres.
Il s'agit aussi de familiariser les enfants dès le plus jeune âge, comme à Radio France d'ailleurs avec mon petit France Inter qui compte, je le précise, beaucoup de programmes de France Culture, en particulier des fictions. Je vous remercie beaucoup, Peter Maurer, d'avoir été avec nous, maître de conférence en médias et communication à l'Université de Karlstad en Suède. Peut-être un tout petit mot pour revenir sur l'Allemagne, puisque Peter Maurer nous parlait de cet audiovisuel public qui conçoit des formats exprès pour les réseaux sociaux ou pour les plateformes. Il se trouve qu'il y a un autre aspect de la réforme en Allemagne de l'audiovisuel public qui ne pourra plus publier d'articles qui ne sont pas déjà liés à une émission diffusée. C'est un conflit ancien avec les éditeurs de presse. Je pense que ça nous parle aussi ici en France. Peut-être en quelques mots, Valérie Robert, de quoi s'agit-il?
Oui, ça fait une dizaine d'années que ça dure déjà, que les éditeurs de presse considèrent que la présence en ligne de l'audiovisuel public est une concurrence déloyale puisque financée par la redevance et qu'ils demandent que soit interdit ce qu'ils ont obtenu finalement, tout contenu qui ressemble à de la presse en ligne sur les sites de l'audiovisuel public. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir de texte que lié effectivement à une émission, soit une retranscription d'émission ou quelque chose qui complète. Ce qui est évidemment un problème économique aussi, ou tout simplement de diffusion, et aussi pour l'audiovisuel public, ça veut dire en fait perdre la bataille sur Internet. C'est limiter évidemment leur expression sur Internet, alors même que, bien évidemment, en même temps, on leur demande de s'investir davantage dans le numérique. Donc ça rend les choses assez compliquées.
Et c'est un débat très intéressant qui existe aussi dans les rédactions de l'audiovisuel public en France. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Hubé. J'ai pas pu vous donner la parole, mais je rappelle et je vous remercie, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et je recite le titre de votre dernier livre aux éditions du Croquant, La politique des chemins courts, un siècle de relations entre journalistes et communicants gouvernementaux en Allemagne. Merci beaucoup Valérie Robert d'avoir été avec nous, maîtresse de conférence en études germaniques à l'université Sorbonne Nouvelle. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Revue de presse consacrée d'abord à la République démocratique du Congo. Catherine, ce matin, entre espoir de paix et crise humanitaire.
Un sujet passé sous les radars médiatiques depuis l'accord de paix annoncé avec force par Donald Trump. Et pourtant, en un mois seulement, avec la reprise de l'offensive du M23, plus de 500 000 hommes, femmes et enfants ont dû quitter leur maison à cause des combats dans le sud Kivu, alertent les médias congolais Radio Okapi et Actualité.cd. 500 000 de déplacés et d'innombrables blessés à cause des affrontements qui ont donc repris entre d'un côté l'armée congolaise, soutenue par le Burundi, et de l'autre, le M23, soutenu par le Rwanda, rappelle la BBC. Les femmes et les fillettes sont particulièrement vulnérables, prévient l'ONU, cité par Radio Okapi, sachant que le viol est utilisé comme arme de guerre en toute impunité en RDC sur des femmes et des fillettes de 8 ans parfois, alerte le New York Times. Les Congolaises peinent à accéder à des contraceptifs d'urgence et à des médicaments préventifs contre le VIH et l'hépatite depuis janvier et la décision de l'administration Trump de fermer l'agence au développement USAID. Les réfugiés congolais qui fuient aujourd'hui vers le Burundi ou le Rwanda n'ont souvent que leurs vêtements sur le dos, parfois des sacs à la main ou sur la tête, rapporte Radio Rwanda, la radio publique rwandaise. Et où qu'ils aillent, leurs conditions de vie sont précaires, dans des abris surpeuplés, exposés aux risques sanitaires, précise le média congolais Radio Okapi. Donald Trump se targuait pourtant d'avoir réalisé un grand miracle au début du mois en faisant signer un accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda, rappelle le New York Times et la BBC. C'est sous la pression de Washington, affirme Actualité.cd, que le groupe armé M23 promet ce matin de retirer ses troupes de la ville d'Uvira dans l'est de la RDC, comme le rapporte aussi le journal rwandais The New Times, mais ce retrait est assorti de nombreuses conditions qui font douter d'une paix durable, selon le site actualité.cd. En prenant la ville stratégique d'Uvira au début du mois, les rebelles du M23 pouvaient ainsi contrôler la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi, soutien militaire de Kinshasa. C'est un verrou essentiel capable d'ouvrir la voie pour les rebelles vers le Katanga, considéré comme le poumon économique du pays, rappelle actualité.cd.
Le groupe armé M23 promet de se retirer de cette ville d'Uvira, mais il conserve une emprise sur la République démocratique du Congo.
Effectivement, en s'emparant au début de l'année de Goma et de Bukavu, les grandes villes de l'est de la RDC, le M23 gouverne désormais sur 10 millions de Congolais au Kivu, explique un reportage télévisé de Channel 4 News, la chaîne britannique. Et Human Rights Watch affirme que plusieurs milliers de soldats rwandais, y compris des forces spéciales, ont traversé la frontière vers la RDC ces dernières semaines. Une offensive appuyée par des drones d'attaque, d'artillerie de gros calibre et d'autres armes, détaille actualité.cd. causant la mort de plus de 400 civils, note le Washington Post, et la fuite de 30 000 Congolais vers le Burundi, ajoute Radio Okapi. Menace d'embrasement à nouveau de la région des Grands Lacs avait alerté presque d'une même voix pour une fois les Nations Unies et les diplomates aux États-Unis, indique Radio Okapi. Washington avait promis de répondre à cette violation de l'accord de paix qui retarde l'approvisionnement en minerais stratégiques par les États-Unis, analyse actualité.cd. et Channel 4 News, car l'est de la RDC regorge de ressources naturelles, d'or, de cobalt, de cuivre, mais aussi de tungstène, de lithium, de coltan, essentiels aux portables, aux voitures électriques notamment, précise le New York Times et la BBC. Des minerais aujourd'hui contrôlés par la Chine et désormais convoités par les États-Unis. Donc, à Rubaya, dans la plus grande mine de coltan de RDC, la montagne a été transformée en un réseau de puits et de tunnels, tous creusés à la main. Des hommes et des adolescents s'y enfoncent chaque jour, décrit Channel 4 News, suffoquant sous terre, dans le noir et la chaleur, pour un salaire de moins de 5 dollars pour des journées de travail de plus de 12 heures. C'est ici qu'on creuse, c'est difficile. Allez, on remplit ce sac et augmente un peu la lumière de la lampe, demande l'un de ces mineurs congolais qui travaillent à Rubaya. On va remonter, hein, mais vous restez là, vous continuez à creuser, d'accord? Alors que la population congolaise du Kivu continue de vivre dans la pauvreté en contrôlant la mine de Rubaya, les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda sont devenus des acteurs majeurs d'une chaîne d'approvisionnement mondiale lucrative, analyse Channel 4 News. Les taxes imposées sur la mine de Rubaya génèrent un revenu de 800 1000 dollars par mois, et que ce soit au profit du groupe armé M23 ou bien de la Chine et bientôt des États-Unis, le Congo reste à la merci de l'exploitation de ses richesses et de sa population, souligne Channel 4 News, l'histoire du pays marquée par une succession d'ingérences étrangères.
Merci Catherine Dutu.